Alors en France, en 1946, il y a eu un mariage de célébré pour 78 habitants. En 2010, soit 64 ans plus tard, il y a eu un mariage de célébré pour 250 habitants. Ce qui veut dire que proportionnellement, alors je m'adresse aux matheux par ici, proportionnellement à la taille de la population, le nombre de mariages célébrés en une année a été divisé par 3 en l'espace de 60 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de nuptialité, le rapport entre le nombre de mariages célébrés en une année et le nombre d'habitants dans un pays donné. Ce taux a été divisé par 3, en l'espace de 60 ans. Parallèlement à cela, l'âge moyen auquel on se marie ne cesse d'augmenter en France, au rythme actuel d'un an tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, on se marie un an plus tard que 5 ans avant. Vous voyez ce que je veux dire? Cela, c'est d'après l'INSEE. Les gens qui se marient, pour faire simple, sont donc de plus en plus âgés. Aujourd'hui, les hommes se marient normalement, c'est une moyenne, normalement les hommes se marient autour de l'âge de 32 ans en France et les femmes autour de l'âge de 30 ans. C'est la moyenne. Si bien que, vers le milieu des années 2000, il y a eu un basculement symbolique en termes de démographie et d'état civil dans notre pays. Un basculement qui est le suivant, c'est symbolique, hein? Il y a eu un renversement de situation qui est le suivant. Pour la première fois en France, depuis le milieu des années 2000, j'ai pas l'année exacte, mais depuis le milieu des années 2000, pour la première fois en France, la majorité des personnes de 15 ans ou plus ne sont pas mariées. Depuis il y a 4 ou 5, enfin 5-6 ans. Autrefois, la majorité des personnes de plus de 15 ans étaient mariées. Maintenant, depuis cette période-là, depuis 4, 5, 6 ans, la majorité des personnes de 15 ans ou plus n'est pas mariée en France. Et enfin, une dernière statistique intéressante. 31% des femmes nées en 1950, écoutez bien, 31% des femmes nées en 1950 étaient mariées avant l'année de leurs 21 ans. D'accord? 72% d'entre elles, nées en 1950, étaient mariées avant l'année de leurs 25 ans. Mais quant aux femmes nées en 1990, donc 40 ans plus tard, devinez combien d'entre elles sont mariées avant l'année de leurs 21 ans. 1%. 1%. D'accord? Alors, voilà, en l'espace de 40 ans. Pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que j'aimerais qu'on mesure à quelle vitesse notre société est en train d'évoluer sur certains sujets, notamment sur celui du mariage. Et j'aimerais aussi qu'on se rende compte d'une chose. C'est que notre société aujourd'hui est confrontée à un phénomène relativement nouveau, mais spectaculaire, quand on le considère à l'échelle des 50 dernières années. Et c'est encore plus le cas si on le considère à l'échelle des 1000 dernières années, mais ne serait-ce qu'à l'échelle des 50 dernières années. Et ce phénomène nouveau et spectaculaire, c'est la proportion très, très, très grande de jeunes adultes célibataires dans notre société. Rendez-vous compte, je le disais, 72% des femmes nées en 1950 étaient mariées avant l'année de leurs 25 ans. 72%, c'est près des trois quarts. Ça n'a pas commencé comme la dernière fois. Hein. Mais pour les femmes nées en 1980, ça c'est ma génération, 87% d'entre elles n'étaient pas mariées avant l'année de leurs 25 ans. Vous voyez la différence? En l'espace d'une génération. 60% d'entre elles, nées en 1980, ont plus de 30 ans maintenant et ne sont toujours pas mariées. Ou bien, elles ont déjà divorcé. Bref, vous voyez là ce que j'appelle la révolution sociétale que notre pays a connue ces dernières décennies, en tout cas sur ce point, qui est celui du mariage. Et nous tous aujourd'hui, c'est dans ce contexte que nous vivons. C'est dans ce contexte que nous vivons. Et vous êtes peut-être aujourd'hui vous-même ce jeune adulte célibataire engagé dans de longues études pour qui le mariage est juste inconcevable pour l'instant. C'est peut-être votre cas. Ou bien vous êtes le jeune adulte qui désire se marier et qui peut-être est prêt à se marier depuis plusieurs années maintenant, mais qui peine à trouver l'âme sœur. Ou bien vous êtes peut-être un parent ou un futur parent. Un jeune parent, conscient de l'évolution des mœurs de notre société, et vous vous demandez Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire à vos enfants pour les encourager à demeurer fidèles à Dieu dans un contexte qui est tellement différent de celui que vous avez connu? D'ailleurs, à quoi ça ressemble la fidélité à Dieu dans ce contexte? Quelle que soit notre situation, en fait, l'évolution rapide de notre société, dans le sens que je viens de vous décrire, par le moyen des statistiques, cette évolution soulève un certain nombre de problèmes pour nous qui souhaitons vivre en conformité avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire en conformité avec les enseignements de la Bible. Ça soulève un certain nombre de problèmes qu'on va voir aujourd'hui. Parmi les nombreux impératifs de la Bible, que Dieu, donc par le moyen de la Bible, adresse aux chrétiens, il y a celui-ci: que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, verset 4. Ou bien, dans la traduction de Darby, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards. Et la question à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la suivante: en tant que chrétien et par amour pour Dieu, comment respecter cet impératif consiste à honorer le mariage? Comment respecter cet impératif dans le contexte social et culturel qui est le nôtre aujourd'hui? Alors pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur une évidence. Le célibat est une condition obligée pour tout être humain. Le célibat est une condition obligée pour tout être humain. En France, il n'est pas légal de se marier avant l'âge de 18 ans. Donc, si vous êtes chrétien et que vous considérez que la vie de couple est normalement encadrée par le mariage, vous allez vivre en célibataire, n'est-ce pas, pour au moins 18 ans. Parce que vous allez respecter la loi de notre pays. Célibat, condition obligée pour tout être humain. Vous n'avez pas le choix. De plus, il se trouve que dans le plan de Dieu, le plan très sage de Dieu, la vie de couple et les relations conjugales en général sont juste impossibles pour des enfants, que ce soit d'un point de vue pratique ou physiologique. C'est juste impossible. En tout cas jusqu'à un certain âge. Et pourtant, d'un point de vue biblique, chaque être humain est déjà un être humain à part entière dès sa naissance, pour ne pas dire dès sa conception. Et à ce titre, cet être humain porte l'image de Dieu. Une image déformée, détériorée par le péché. C'est pourquoi cet être humain est appelé, invité à être réconcilié avec son Créateur par la foi en Jésus. Cet être humain est appelé à glorifier Dieu dans son corps et dans son esprit. 1 Corinthiens 6, 20. Tout cela à titre individuel et indépendamment de l'existence ou non d'un lien conjugal. D'accord? Ça, c'est le point commun de tous les êtres humains. Bref, ça peut vous paraître une évidence, mais la priorité de tout être humain, ce n'est pas sa relation à un conjoint, mais c'est sa relation à Dieu, pour le dire très simplement. Les célibataires, donc, ne sont pas des êtres humains en attente d'être complétés par leur autre moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils sont déjà des êtres humains complets, à condition toutefois de connaître et d'aimer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que c'est Jésus et Jésus seul qui restaure l'être humain, qui rend l'être humain parfait, et c'est un langage employé dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, 14 par exemple. C'est Jésus et Jésus seul qui rend l'être humain libre par la connaissance de la vérité, Jean chapitre 8, verset 32. La période pendant laquelle l'être humain est par nécessité célibataire, c'est donc une période qui doit être consacrée, comme tout le reste de la vie de tout être humain, à aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et à aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, dit Jésus. Marc 12, versets 30 et 31. Et donc, honorer le mariage, quand on n'est pas marié, ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par honorer le Créateur et par trouver notre contentement en lui. Penser que notre contentement peut provenir du mariage, ou penser que nous sommes des êtres incomplets avant d'avoir fondé un couple ou une famille, c'est une perspective erronée qui ne convient pas aux chrétiens et qui peut même constituer une forme d'idolâtrie. Parce qu'à certains égards, on remplace Dieu ou on remplace le Seigneur Jésus-Christ par le concept du mariage, ou par le concept d'un époux ou d'une famille. D'accord? Ça, c'était la première chose à dire. C'est peut-être une évidence, mais il faut avant toute autre chose qu'on garde le sens des priorités, non? Honorer le mariage, c'est d'abord honorer Dieu, indépendamment de notre situation matrimoniale. Et si c'est quelque chose que vous apprenez à faire pendant votre célibat, d'honorer Dieu, vous serez alors dans les meilleures conditions possibles pour ensuite réfléchir aux relations de couple et au mariage, ce que nous, on va faire dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais souligner deux choses. Premièrement, et c'est mon petit B sur votre plan, premièrement, la réalité que nous connaissons aujourd'hui et qui est celle d'un célibat prolongé est problématique. Pour une simple et bonne raison, c'est que la Bible réserve les relations sexuelles au mariage, mais que la puberté commence à l'adolescence. C'est problématique. Le calcul est vite fait, hein. Pour un être humain relativement normal, donc, si on se base sur l'âge moyen auquel on se marie aujourd'hui, ça représente grosso modo 15 ans de vie où nos hormones et nos désirs livrent une guerre sans merci aux exigences de Dieu relatives à la sexualité et au mariage. Pour être un peu plus explicite, qui a jamais attendu d'avoir 30 ans pour tomber amoureux? Qui, étant amoureux, a jamais attendu d'avoir 30 ans pour fréquenter la personne aimée? Qui, étant amoureux et fréquentant la personne aimée, a jamais attendu d'avoir 30 ans pour éprouver une attirance physique à l'égard de la personne aimée? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Problème. Repousser l'âge du mariage est une réalité difficile à assumer, une réalité de notre société aujourd'hui. Mais elle est difficile à assumer aujourd'hui pour les chrétiens, parce qu'on est des êtres humains normaux. Et parce qu'à partir de l'adolescence, le sentiment amoureux et le désir sexuel sont pratiquement inévitables. Rendez-vous compte. L'âge moyen de la première relation sexuelle, aujourd'hui, chez les 18-24 ans, quand on leur pose la question... L'âge moyen, 16 ans et demi. Mais l'âge moyen du mariage, 32 ans. C'est la moitié. C'est la médiane. N'est-ce pas, Christophe? Alors, qu'est-ce qui cloche, à votre avis? Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau? Est-ce que c'est le fait d'avoir une relation sexuelle si jeune qui cloche, ou est-ce que c'est le fait de se marier si tard qui cloche? Les deux cloches, en fait. Les deux cloches. Avoir des relations sexuelles si jeunes, aujourd'hui, ça résulte globalement d'une dévaluation et d'une banalisation de la relation sexuelle, ce qui est contraire à l'opinion de Dieu. Pour Dieu, la sexualité n'est pas banale, n'est pas anodine, et elle a une très grande valeur. Mais se marier si tard, ça cloche aussi à cause de cette tension parfois insupportable que l'on est obligé de vivre entre le désir et le devoir. En tant que chrétien, j'entends. Et dans un passage auquel on va revenir dans un petit instant, l'apôtre Paul fait preuve d'un grand réalisme, comme à son habitude d'ailleurs, en tant qu'apôtre et pasteur. Il dit ceci: « À ceux qui ne sont pas mariés, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, sous-entendu, sans se marier. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » C'est 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9. Vous voyez que en disant cela, Paul montre qu'il a conscience que le célibat prolongé est un problème. C'est un problème parce que le célibat implique la chasteté pour un chrétien, mais qu'en même temps, en tant que chrétien, nous avons quand même des désirs légitimes. La plupart d'entre nous, en effet, nous sommes déjà tombés amoureux. Hein ? Nous avons désiré vivre en couple, nous avons éprouvé du désir sexuel, et c'est normal. Dans mon premier point, j'ai dit que nous devions trouver notre contentement en Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est la priorité et le fondement de la vie de tout chrétien. Mais dans ce deuxième point, ce que je suis en train de dire, c'est que si tout en ayant trouvé votre contentement en Dieu, et si tout en ayant passé l'âge de la puberté, mais c'est votre cas à tous à part pour Édouard, si vous avez passé l'âge de la puberté et que vous avez trouvé votre contentement en Dieu, mais que vous avez le désir ardent de vous marier aujourd'hui, c'est normal. C'est normal. Et c'est légitime. Ce n'est pas un mauvais désir. Vos sentiments amoureux, votre désir sexuel et votre aspiration au mariage sont légitimes. Ce qui n'est pas normal, c'est la réalité actuelle, relativement nouvelle, qui nous oblige et qui vous oblige à attendre si longtemps. Et par conséquent, si vous avez ce désir de vous marier, vous devez réfléchir franchement à qu'est-ce qui vous en empêche. D'accord ? Et on aura l'occasion de revenir sur ce point dans la suite de cet exposé. Comme ça, j'ai votre attention. La deuxième chose que je voulais souligner, avant d'aborder plus spécifiquement la question des relations amoureuses et du mariage, la deuxième chose que je voulais souligner, c'est le fait que certaines personnes demeurent célibataires toute leur vie. Ah ! Et en m'écoutant, là, depuis le début de cet exposé, vous vous dites peut-être, tiens, Alex, il est en train de dire que le célibat prolongé est un problème. Mais il y a bien des chrétiens qui restent célibataires toute leur vie. Peut-être même que c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Et c'est vrai. Manifestement, personne ne peut le contester, Dieu ne destine pas tous les chrétiens au mariage. Ça, c'est vrai. Mais l'enseignement de la Bible est clair. Soit on se marie, soit on reste chaste. Soit on se marie, soit on reste chaste. Et c'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul explique que le fait de rester célibataire n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une situation difficile à assumer, notamment en raison de nos désirs sexuels. Mais il dit bien en même temps que ce n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, loin de là. Paul nous dit même qu'il y a certains avantages à être célibataire et à rester célibataire toute sa vie. Et pour comprendre ce que dit Paul dans ce contexte, il faut comprendre une chose. C'est que dans le monde grec à l'époque de Paul, il y avait un courant de pensée qu'on appelle le gnosticisme, et qui affirmait ceci, que le monde matériel était mauvais, que c'était mal, et que le salut consistait à échapper au monde matériel par une sorte d'illumination spirituelle, par une sorte de connaissance spirituelle à laquelle on pouvait accéder de façon un peu mystique. Et donc, l'application concrète de ce principe, selon lequel ce qui est matériel est mal, mais ce qui est spirituel est bien, l'application concrète de ce principe revenait à négliger la dimension matérielle ou corporelle de notre existence, ce qui se traduisait de deux manières possibles à cette époque-là. Soit d'un côté par tous les excès, soit d'un autre côté par l'ascétisme ou la privation. Je m'explique. Puisque le corps est mauvais et qu'il faut en être libéré, alors certains disaient, par conséquent, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait de son corps, puisque c'est mal, c'est mauvais, ça compte pas, c'est nul, on fait ce qu'on veut de son corps, on mange ce qu'on veut, et on couche avec qui on veut. On fait ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Tandis que, de l'autre côté, d'autres personnes du même courant de pensée, influencées par le même courant de pensée, disaient non, puisque le corps est mauvais, il faut vivre comme si on n'avait pas de corps. Et donc, plutôt que de manger n'importe quoi, eh bien, se priver. Jeûner, très souvent, se priver de certains aliments. Et puis, surtout, ne coucher avec personne, puisque c'est un acte physique. Et donc, on couche avec personne. Et je ne sais pas si vous voyez, mais dans les deux cas, qui sont un peu des cas symétriquement opposés, dans les deux cas, il y a une atteinte au concept biblique du mariage. C'est ce que dans le mariage, selon la Bible, on ne couche pas avec n'importe qui, mais on ne couche pas avec personne non plus. Mais dans le deuxième cas surtout, celui de l'ascétisme, de la privation, on avait des gens qui préconisaient le célibat, justement. Ils disaient, non, si tu veux être un vrai chrétien, un chrétien TTS, comme dit Jonathan, très très spirituel, c'est bien ça, hein ? C'est ça. Si tu veux être un chrétien très très spirituel, tu ne dois pas te marier. Reste célibataire toute ta vie, consacre-toi à des activités spirituelles. Et dans 1 Timothée 4, versets 1 à 4, Paul fait référence à ces gens en disant que ces gens prescrivent de ne pas se marier. Et Paul a un langage très fort là. Il appelle cela une doctrine de démon. Okay. Prescrire de ne pas se marier, pour Paul, 1 Timothée 4, verset 1 à 4, c'est une doctrine de démon. Ça ne vient pas du Seigneur. Mais dans le contexte des Corinthiens, il est tout à fait vraisemblable que les disputes internes à cette église sur le sujet du mariage aient été provoquées par ce genre de pensée gnostique. Et la réponse de Paul est très juste, très réaliste et très pastorale. Je vous renvoie pour ça à l'excellente prédication de Jonathan sur ce chapitre. Mais Paul, il dit ça en substance. Si vous ne voulez pas vous marier, ok, vous êtes libre de ne pas vous marier. Il n'y a pas de mal à cela, à ne pas se marier. Il y a même là certains avantages. Mais si vous voulez vous marier, ok, vous en avez la liberté. Il n'y a pas de mal à ça. Sachez juste ceci, dit Paul aux Corinthiens, sachez juste ceci, en restant célibataire, la tentation de l'inconduite sexuelle sera plus difficile à supporter. Tandis qu'en vous mariant, c'est la persécution qui sera plus difficile à supporter, ce qu'il appelle les calamités présentes dans ce passage. Et donc, à vous de voir. Donc si vous aujourd'hui vous vous demandez s'il est possible que Dieu vous destine au célibat perpétuel, la réponse est oui, c'est possible. Je ne peux pas répondre hein, pour Dieu, mais en tout cas c'est possible. Vous n'avez pas besoin de vous marier pour trouver votre contentement en Jésus, pour avoir une vie satisfaisante, complète, utile, qui plaît à Dieu, une vie fructueuse pour le royaume de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous marier pour cela. Le mariage n'est pas une vocation supérieure au célibat. Mais attention, le célibat n'est pas non plus une vocation supérieure au mariage. Toutefois, je pense qu'il est légitime de dire que du point de vue de l'ensemble de l'Écriture, le mariage apparaît quand même comme une vocation plutôt ordinaire, plutôt normale, si j'ose dire, pour l'être humain, tandis que le célibat apparaît plutôt comme une vocation extraordinaire ou exceptionnelle pour l'être humain. Et voici ce que dit Paul pour souligner le caractère difficile et par conséquent peut-être plus admirable, plus difficile et peut-être par conséquent plus admirable du célibat. Et c'est à la fin de tout ce passage, 1 Corinthiens 7, versets 37 et 38, voici ce qu'il dit. Et je lis dans la traduction de Darby, sachant que ces deux versets font l'objet d'une petite dispute entre commentateurs bibliques, parce qu'on n'est pas sûr de comment les traduire même, mais voici comment a traduit Darby. « Celui qui tient ferme dans son cœur » et qui n'est pas sous l'empire de la nécessité, mais qui est maître de sa propre volonté et a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité, fait bien. Ainsi, et celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Je ne pense pas que Paul soit en train de souligner une supériorité du célibat par rapport au mariage. Il est en train de dire que parce que le célibat, c'est une vocation peut-être plus difficile et plus exceptionnelle, elle est aussi par conséquent plus admirable, étant donné tout ce qu'il dit au verset 37. Celui qui tient ferme dans son cœur, qui n'est pas sous l'empire de la nécessité, qui est maître de sa propre volonté, et qui a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité. Bah, chapeau, est en train de dire Paul, si vous pouvez faire ça. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette première partie? D'abord, premièrement, tout être humain qui est attaché à Jésus par la foi est un être humain complet, indépendamment de sa situation matrimoniale. Deuxièmement, il est normal et légitime d'aspirer au mariage, mais les chrétiens doivent avoir conscience que l'attente est d'autant plus difficile qu'elle est longue. Et troisièmement, on a vu que le célibat perpétuel était une option, légitime aussi pour les chrétiens, mais une option relativement exceptionnelle qui implique la chasteté. Célibat perpétuel égale chasteté perpétuelle. Ça, c'est le réalisme de l'Écriture. Maintenant, dans la deuxième partie, je voudrais parler d'une question qui obsède un certain nombre de jeunes adultes chrétiens, en tout cas ceux qui désirent se marier. Et cette question, c'est la suivante. Qui est la bonne personne ? Alors, c'est normal que cette question ait de l'importance pour ceux qui veulent se marier, parce que le mariage, ça change radicalement la vie. On ne veut pas se tromper sur la personne avec laquelle, en principe, on va passer le restant de ses jours. Donc c'est normal que cette question ait de l'importance pour les jeunes adultes chrétiens qui songent au mariage. Seulement voilà, parfois on entend dire que Dieu sait quelle est la bonne personne qu'on doit épouser. Dieu sait quelle est la bonne personne pour toi. Dieu a quelqu'un pour toi. Il te le réserve bien au chaud quelque part. Juste pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend patiemment du Seigneur la révélation de ce don, sans savoir exactement comment ça va venir. On aimerait d'ailleurs que ça se passe un peu comme à la cérémonie des Oscars. Et le rôle d'épouse de Christophe est attribué par Dieu à... Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça, hein. Et ce n'est pas censé se passer comme ça. Ce n'est pas censé se passer comme ça. D'habitude, Dieu n'écrit pas le nom de notre futur époux dans les nuages. Ça ne marche pas. Bien sûr que Dieu, de toute éternité, d'un point de vue théologique, on est d'accord, Dieu, de toute éternité, sait dans les moindres détails comment toute notre vie va se dérouler. Il est omniscient. Dieu n'est jamais pris par surprise. Et il sait tout. Il est au courant de tout. Mais il n'a pas prévu de nous en révéler tous les détails. Et non, loin de là. Ce qu'il nous demande, en revanche, c'est de lui obéir en ce qui concerne sa volonté morale qu'il nous a révélée dans l'Écriture. Et je vais citer Jonathan pas mal aujourd'hui, mais je vous renvoie à un excellent travail que Jonathan a fait sur la volonté de Dieu, comment discerner la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on obéisse à sa volonté morale, celle qu'il nous a révélée dans l'Écriture. Mais pour le reste, Dieu nous demande de prendre des décisions réfléchies, sages et responsables. D'accord ? Ça veut dire que si vous êtes célibataire aujourd'hui, vous ne devez pas aborder la question du choix de votre conjoint en vous disant d'abord qu'il n'y a qu'une seule personne qui est la bonne et que vous devez essayer de la trouver comme on essaye de découvrir le coupable dans un roman d'Agatha Christie. D'accord ? Vous allez mener votre enquête pour découvrir quelle est la personne que Dieu tient en réserve pour vous. Non, c'est pas comme ça qu'il faut aborder la question. La réalité, en fait, tenez-vous bien, c'est qu'il existe sans doute de nombreuses personnes que vous pouvez épouser avec la pleine bénédiction de Dieu. C'est vrai ? Et dans cette partie, donc, je vais vous proposer 12 critères. Certains sont des critères objectifs, donc qui ont rapport avec la volonté morale de Dieu, telle qu'il l'a révélée dans l'Écriture sainte. Mais certains sont des critères subjectifs qui vont varier en fonction de votre situation personnelle. D'accord ? Vous êtes prêts ? Il y a certains critères, on va aller très très vite parce que vous allez voir qu'ils apparaissent comme des évidences. Mais ils méritent quand même d'être signalés, étant donné la direction dans laquelle se dirige notre société. Vous allez comprendre. Oui, bien sûr, il reste une faillite. Un jour, mon prince viendra. Premièrement, ma princesse. Quatre critères concernant le qui. Qui puis-je envisager d'épouser ? Quatre critères. Premièrement, une personne du sexe opposé. Ben, ne riez pas, hein ? Parce que bientôt, si l'Église ne le dit plus, qui c'est qui va le dire à sa place ? Une personne du sexe opposé. Vous allez encore rire, puisque le deuxième critère, c'est une personne célibataire. Une personne libre de tout autre engagement. Je le précise parce que dans certaines cultures, on peut se marier à plusieurs. Il existe déjà, mes amis, des lobbies, qu'on appelle des lobbies polyamoureux, qui sont pour une vie matrimoniale à plus que deux personnes. D'accord ? Ça existe. Troisième critère, une personne, vous allez encore rire, mais une personne consentante. Je le précise parce qu'il existe évidemment des cultures où les mariages forcés sont promus. D'accord ? Mais il n'y a pas de mariage forcé dans l'Écriture. Il y a des mariages arrangés, ce qui n'est pas la même chose. Si vous voulez, on en parlera après dans le temps des questions. Mais il n'y a pas de mariage forcé. La coercition est condamnée par la loi de Moïse. Okay ? Donc ça ne peut pas être plus clair. Deutéronome 24, verset 7. Quatrième critère objectif, il faut que ce soit une personne chrétienne. Une personne chrétienne. Alors ce critère, il est un petit peu contesté aujourd'hui, même parmi les chrétiens, parce qu'il est difficile de trouver des jeunes adultes célibataires, du sexe opposé, consentants et célibataires, qui soient aussi chrétiens. On peut en trouver beaucoup plus facilement qu'ils ne le sont pas. Mais en même temps, ça devrait franchement couler de source, parce que comment est-ce qu'on peut partager sa vie avec quelqu'un dont la vie ne repose pas sur le même fondement que nous, que moi ? Comment est-ce possible ? Dans la Bible, d'ailleurs, est-ce que vous le saviez, la différence entre un non-croyant et un croyant, est présenté comme quelque chose de plus important que la différence entre un homme et une femme. Galates 3, 28, il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Différence radicale, c'est une différence de fondement absolu entre un croyant dont la vie, dont la personne est attachée au Seigneur Jésus, et une autre personne qui vit, pour reprendre encore du langage biblique, qui vit dans les ténèbres. Une différence absolument radicale, un abîme entre les deux, sépare les deux. Comment est-ce qu'on peut se marier dans ces conditions? Et Dieu parle en termes assez explicites, finalement, de cette tentation qui consisterait à établir des liens amoureux ou matrimoniaux avec des personnes qui ne sont pas dans son peuple. Il en parle à plusieurs reprises, je vous donne comme ça pêle-mêle les références si vous avez envie de les noter. Néhémie 13, versets 23 à 27, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, et 1 Corinthiens 7, verset 39, où il est question des veuves qui se remarient, et Paul dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà pour les quatre premiers critères qui concernent le qui puis-je envisager d'épouser. Ben voilà, déjà des critères objectifs en rapport avec la volonté morale de Dieu. Quatre critères maintenant concernant le quoi. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'épouser cette personne? Alors vous pouvez trouver des candidats, si j'ose dire, au mariage, mais si vous n'êtes pas d'accord sur ce que ça veut dire de se marier avec cette personne, ça va poser un problème. Ici encore, les quatre critères qui concernent le quoi, ce sont des critères objectifs, propres, relatifs en tout cas à la volonté morale de Dieu telle qu'il nous l'a révélée dans la Bible. Premièrement, se marier, c'est un engagement à vie. C'est un engagement à vie. Deux chrétiens qui se marient ne considèrent pas le divorce comme une option. Quand on rentre dans le mariage, il n'y a pas d'issue de secours. Il ne faut pas l'imaginer. Imaginez que le mariage comporte une issue de secours appelée divorce. C'est un engagement à vie. Malachie 2,16 par exemple, Matthieu 19,6, 1 Corinthiens 7, 10 à 14. Deuxièmement, c'est un engagement public, le mariage. Dans toute la Bible, le mariage est présenté comme une union entérinée par l'autorité civile qui est en place. C'est quelque chose d'officiel, quelque chose qui est annoncé publiquement. Tout ce qui est promis mutuellement dans le cadre d'un mariage doit donc être encadré de façon légale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage si c'est une union purement privée, ou secrète, ou spirituelle. On est marié pour le Seigneur, on est marié devant le Seigneur. Non, ça ne marche pas comme ça. On est marié si on est marié devant l'autorité civile. On est marié si les bans ont été publiés sur le mur de la mairie pendant quoi? Je crois que c'est un mois avant, pour que tout le monde soit au courant. Donc on invoque, on appelle la population à être témoin et à entériner par son constat de public que l'union a bien eu lieu. Alors, quand on est chrétien, ça va plus loin, bien sûr, parce qu'on en appelle aussi à l'autorité de l'Église, qui n'a pas d'autorité en elle-même pour prononcer le mariage, mais qui quand même, parce que la vie de tout chrétien s'inscrit dans la vie de l'Église locale, l'union entre deux chrétiens, le mariage, le couple ainsi formé, s'inscrit lui aussi dans le cadre de l'Église locale. Et donc l'Église est appelée à être témoin aussi de cette union. Et c'est pour cette raison, dans certains pays, les chrétiens se marient à l'Église uniquement parce que les pasteurs ont l'autorité civile, une délégation de l'autorité civile pour prononcer les mariages, mais en France, on fait une fois un coup à la mairie et puis ensuite à l'église, parce que les pasteurs n'ont pas cette autorité-là. Mais néanmoins, l'union, la cérémonie à l'église est importante, parce que l'église, la famille spirituelle du couple, peut être témoin de leur engagement, et par conséquent, l'autorité spirituelle que représente l'église peut également intervenir dans le cas de difficultés, dans le cadre du couple. Troisièmement, c'est un engagement, donc un engagement à vie, un engagement public. Troisièmement, c'est un engagement exclusif. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais l'adultère, évidemment, est sévèrement dénoncé dans la Bible. Mais pas seulement l'adultère. Jésus inclut sous le terme adultère la convoitise du cœur. Hein? Et donc ça veut dire combien il est important dans le mariage qu'un homme et une femme soient entièrement fidèles l'un envers l'autre, que ce soit en acte ou en pensée. Et quatrièmement, c'est un engagement, là aussi je ne vais pas m'étendre, mais c'est un engagement qui précède la sexualité. Ce n'est pas dans l'autre sens. C'est l'engagement d'abord, la sexualité ensuite. La Bible condamne la sexualité hors mariage, qui est appelée tantôt impudicité, tantôt inconduite, tantôt fornicatio, qui est un terme un peu vieillot, tantôt débauche. Et donc c'est pour cette raison que Hébreux 13,4 par exemple dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Il faut honorer le mariage et par conséquent ce qui découle du mariage c'est le lit conjugal. Celui-là doit rester pur aussi. D'accord, quatre critères donc concernant le qui, quatre critères concernant le quoi, et maintenant quatre critères concernant le comment, et maintenant on en vient à des critères un peu plus subjectif. Comment faire le bon choix? Premièrement, la question de l'engagement dans la foi de la personne. Je ne sais pas trop employer ce terme, mais du candidat. beaucoup de gens se disent chrétiens. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais on n'est pas sûr de leur engagement avec le Seigneur. Il y a quelques années, notre église, donc vous n'étiez pas là, hein, vous tous, donc je peux en parler, mais il y a quelqu'un qui est venu dans notre église, on ne savait pas trop d'où il sortait, mais il nous a dit explicitement qu'il cherchait une femme à épouser, et qu'il allait dans l'église pour trouver une femme. Il a fait 6 mois, et puis après il est parti dans une autre église. On s'est franchement posé un peu la question de son engagement avec le Seigneur, quoi. Je ne sais pas pourquoi il allait dans les églises pour trouver une femme, peut-être parce qu'il se disait que les chrétiennes étaient plus sympas, j'en sais rien. Hein. Il se présentait comme un chrétien, mais il y avait des choses qui n'allaient pas très bien au niveau de sa foi, on est d'accord. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. En tant que chrétien, vous voulez glorifier Dieu avant toute autre chose. Par conséquent, le but de votre mariage est aussi la gloire de Dieu. D'accord ? Le but de votre mariage est la gloire de Dieu. Le but de votre mariage, écoutez bien, ce n'est pas votre bonheur personnel. Le but de votre mariage, c'est la gloire de Dieu. Vous allez donc vous assurer que la personne que vous épousez est quelqu'un qui va partager ce but dans votre mariage. Quelqu'un qui est à ce point consacré au Seigneur, qui va rechercher avant toute autre chose la gloire de Dieu dans votre mariage. Apprenez donc à connaître votre candidat dans le cadre de ses relations familiales, ou bien dans le cadre de la vie de l'église locale. Oh, combien c'est précieux d'apprendre à connaître quelqu'un dans le cadre de l'église locale. Et de voir son engagement avec le Seigneur, et de constater à quel point il a le désir, il ou elle a le désir de mettre à contribution ses dons spirituels pour la gloire de Dieu, au service de ses frères et sœurs dans la foi. D'accord, premier point donc, j'ai appelé ça la maturité chrétienne, ou l'engagement dans la foi. Deuxième critère, la vie de vos proches. Comme pour toute décision importante, la sagesse des autres doit compter pour nous. La sagesse des autres doit compter pour nous, à plus forte raison quand on est chrétien, qu'on a une famille spirituelle, qu'on appelle l'Église. Le mariage est une décision pour le moins importante. Hein. Et donc, qui est bien placé pour vous conseiller sur ce point? Sinon, les gens qui vous connaissent le mieux sans être amoureux de vous. Voilà les personnes qui sont les mieux placées pour vous conseiller. Celles qui vous connaissent le mieux sans être amoureux de vous. Vos parents, si vous avez ce genre de relation avec eux. Les autres membres de votre famille, votre église, vos amis dans la foi. Et je déconseille fortement à quiconque de se marier avec quelqu'un contre l'avis unanime de ses proches. Je grossis le trait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et à ce niveau-là, il faut bien sûr beaucoup d'humilité et de lucidité. Troisième critère un peu plus subjectif, toujours ce que j'ai appelé la compatibilité culturelle. Et ici, je parle de culture au sens très large, ce qui inclut bien sûr la langue, l'âge, l'éducation, la classe sociale, les goûts, la personnalité, la sensibilité théologique, la culture familiale. On peut en faire une liste énorme. Et pour chacun de ces points, on pourrait passer 3 quarts d'heure à en discuter. Quand on se marie, on choisit, encore une fois, on choisit de passer, en principe, le restant de ses jours en compagnie de l'autre personne. On se lie à quelqu'un pour toute la vie. Et donc, il vaut mieux à ce moment-là, étant donné que c'est ça le mariage, il vaut mieux prendre du recul par rapport à ses sentiments, qui fluctuent, et considérer à la place tous les paramètres qui fluctuent beaucoup moins. Parfois, on fait cette démarche, bien sûr, j'encourage tout le monde à le faire, cette démarche. Parfois, on le fait et on finit par se rendre compte, et on finit par identifier certains points sur lesquels il va falloir être attentif. Des points qui ne sont pas forcément rédhibitoires. Mais on se dit, ah ouais, tiens, aïe, là, tu es un peu sensible à ça, et moi, je suis plutôt comme ça, il va falloir qu'on soit attentif à ça. C'est important de réfléchir à ça avant de s'engager, pour ne pas être surpris après. Mais parfois, on fait ça, et franchement, on se rend compte que finalement, ça ne marchera pas. Alors, le genre de question qu'on pourrait se poser. Quelles sont les priorités de l'autre en ce qui concerne la dépense de l'argent ? Hein ? Quelle est sa compréhension en ce qui concerne les rôles du mari et de la femme dans le foyer ? Quelles sont ses idées concernant l'éducation des enfants, si toutefois on devait en avoir ? D'ailleurs, est-ce qu'il veut des enfants, ou elle ? Et combien ? Quelle est sa sensibilité ? Non, mais ce sont des questions sérieuses. Quelle est sa sensibilité sur des points de théologie second, mais pas secondaire ? Vous voyez la distinction ? Des points de théologie qui sont second, mais pas secondaires, comme par exemple la question de la fin des temps. C'est une question importante. Est-ce que c'est son cheval de bataille ? Est-ce que moi, j'ai une position, une conviction totalement différente et que ça risque de rentrer en conflit ? C'est pas rédhibitoire, encore une fois. Il faut se poser ces questions. Ou par exemple, le baptême. Baptême par immersion, baptême par aspersion, baptême d'enfant, pas baptême d'enfant. Il faut se poser ces questions. Ou encore, les dons de l'esprit, les dons spirituels. Est-ce qu'elle croit aux dons charismatiques, parler en langue, guérison, délivrance ? Tandis que moi non, j'ai une autre position. Enfin, quelle est sa pratique ? Quelle est ses croyances sur ces points ? Quelle est sa position sur la création ? 6 jours de 24 heures ? 6 jours de 1000 fois 24 heures ? Voilà, quelle est sa position ? Est-ce que ça va poser problème ou pas ? Il faut en parler. Il faut se poser ces questions. D'accord, donc j'ai parlé de la maturité chrétienne, la vie des proches, troisièmement, la compatibilité culturelle au sens large, et quatrièmement, un dernier critère qu'il ne faut pas négliger, c'est celui de la prière et de la conviction intérieure du Saint-Esprit. La Bible nous exhorte en effet à prier en tout temps, à y veiller avec une entière persévérance. Je pense, franchement, et ça fait partie de notre théologie, que Dieu, dans sa souveraineté et dans sa providence, est disposé à nous conduire dans les bons choix, et il utilise la prière pour cela. Il nous demande d'exercer notre responsabilité, on l'a dit, dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance à sa volonté morale telle qu'il nous l'a révélée dans la Bible. Mais encore une fois, dans sa providence, Dieu est tout à fait capable de fermer une porte de façon manifeste. Il est capable, à l'inverse, de l'ouvrir d'une façon manifeste. Il est capable aussi de nous donner une conviction intérieure qui s'apparente à une paix. Une paix devant le Seigneur que le Saint-Esprit vient mettre en nous. Ou à l'inverse, il est capable de nous enlever cette paix, de façon peut-être mystérieuse, mais par le Saint-Esprit, de nous faire comprendre qu'il faut réfléchir davantage. Voilà donc 12 critères, certains objectifs, d'autres subjectifs, qui peuvent nous aider, non pas à faire le bon choix, mais à faire un bon choix. Que le mariage soit quelque chose de proche ou de lointain pour vous aujourd'hui, je pense qu'au moins en gardant ces choses à l'esprit, vous pourrez, le jour venu, aborder la question de façon sereine, si cette question évidemment se présente un jour, et si c'est ce que vous désirez. Mais en attendant, et ce sera mon dernier point, comment devez-vous envisager votre relation en tant que chrétien avec les personnes du sexe opposé, en attendant que le jour vienne de réfléchir plus sérieusement au mariage. Et dans ce domaine, le monde qui nous entoure a beaucoup de choses à dire. Le monde qui nous entoure a beaucoup de choses à dire et ne se prive pas de les dire par tous les moyens qui sont à sa disposition, que ce soit la télévision, les magazines, les sites internet ou encore les amis de la fac ou les collègues du boulot. Mais la Bible, elle en dit quoi de ce sujet, des relations garçon-fille ? Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que la Bible n'est pas complexée sur le sujet. Mais alors, pas du tout, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. La Bible n'est pas du tout complexée sur ce sujet. Garçons et filles se fréquentent au sens large, j'entends. Garçons et filles se connaissent, collaborent dans le cadre de l'Église. Le Nouveau Testament est plein d'exemples où hommes et femmes collaborent dans le cadre de l'Église, se connaissent, se parlent, se fréquentent dans le cadre de l'Église. Il n'y a pas de ségrégation sexuelle dans l'Église. Il n'y en a pas plus qu'il n'y a de ségrégation raciale ou sociale. Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Ni esclave ni libre, d'ailleurs. Galates 3, verset 28. Les garçons et les filles, donc, peuvent être amis et sont même censés être amis en tant que chrétiens. Ouf. Mais attention, la Bible ajoute certains mots-clés à cette relation entre les deux sexes. Pureté, 1 Timothée 5, 2. Honneur, 1 Pierre 3, 7. Décence, pudeur, modestie, 1 Timothée 2, 9. Et Paul dit notamment à Timothée, un jeune pasteur dans son église, il lui dit de traiter les jeunes femmes de l'église comme des sœurs et les femmes plus âgées comme des mères. Comment un jeune homme se comporte-t-il avec sa sœur? Normalement, il la respecte. Il la protège. Il ne flirte pas avec elle. Il maintient avec elle une certaine distance pudique. C'est pas vrai? Mais de nos jours, on entend de façon plus ou moins subtile qu'on peut avoir le même genre de relation amicale entre garçons et filles qu'entre juste garçons ou juste filles. Historiquement, je pense juste à deux changements dans notre société qui sont symptomatiques de cette évolution de la pensée. Ils me sont venus spontanément, il y aura peut-être d'autres exemples qui marcheraient plus, mais les deux changements dans notre société auxquels j'ai pensé, qui représentent ce changement de pensée, de mentalité, sont les suivants. D'abord, le passage à l'école mixte au cours du XXe siècle. Autrefois, il y avait école de garçons, école de filles. Et puis, au cours du XXe siècle, on a instauré la mixité dans l'école. Le deuxième exemple auquel je pense, c'est la colocation mixte. Alors, je ne suis pas en train de porter un jugement ni sur l'un ni sur l'autre. Mais c'est pour vous montrer l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, on pense que les relations amicales entre garçons et filles sont les mêmes qu'entre garçons et garçons, ou entre filles et filles, et donc on ne voit pas où serait le problème pour deux étudiants et deux étudiantes d'habiter ensemble dans un même appartement. Ni pour un garçon et une fille qui sont juste amis, de partir en vacances ensemble. Ni même pour un garçon ou pour une fille de dire que son meilleur ami est une personne du sexe opposé tout en étant amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça ne pose pas problème aujourd'hui. Mais vous voyez ce que je veux dire, peut-être l'évolution de la mentalité, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on allait à l'école dans des établissements distincts, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. La Bible n'est pas complexée sur ce sujet, je le disais, mais en même temps, la Bible est réaliste. Et elle est toujours très réaliste, la Bible. Si elle parle de l'exigence de pureté, d'honneur, de décence, de pudeur et de modestie dans la relation entre les sexes, c'est parce que cette relation n'est pas une relation anodine. Il ne faut pas se leurrer. Les mecs aiment se comporter les uns avec les autres d'une façon qui serait totalement indécente avec une fille. Par exemple, les mecs aiment bien se battre entre eux. Ils aiment bien lutter à bras le corps, par terre, en se roulant sur la moquette. Ça se fait pas avec une fille. Enfin, peut-être dans... Non. Et la même chose vaut pour les filles. Alors, je sais, je caricature, mais écoutez bien. Par exemple, les filles aiment bien acheter de la lingerie ensemble. Ça se fait pas avec les mecs. On est d'accord? Je caricature, bien sûr, je caricature. Mais la réalité, c'est que tout en étant amis, ou plutôt frères et sœurs si on est chrétien, les garçons et les filles doivent avoir conscience qu'une certaine distance, une certaine pudeur est de mise dans leur relation avec le sexe opposé. Pour les gars, écoutez bien. Nous devons notamment faire attention à ne pas être trop attentionnés. vis-à-vis des filles. Nous devons éviter les commentaires ambigus ou équivoques. Nous devons éviter les compliments sur le physique. Nous devons éviter les situations et les conversations intimes avec des personnes du sexe opposé. Nous devons aussi éviter les contacts physiques excessifs ou inappropriés. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses sont propices à faire naître des sentiments qui sont inappropriés entre un frère et une sœur. Les filles, vous aussi vous devez faire attention à ces choses que j'ai mentionnées, mais vous devez faire attention plus particulièrement à la façon dont vous vous habillez. Évitez aussi de donner à un garçon l'impression qu'il est votre héros et que vous avez besoin de lui. C'est vrai. Donc là, vous vous dites très bien. Ok, mais le monde qu'Alex est en train de décrire, c'est un monde puritain dans lequel il n'y a pas de place pour les sentiments amoureux. D'abord, une remarque sur ce point, sur cette objection. On n'a pas attendu la mixité à l'école pour tomber amoureux. Les puritains, et que dis-je, même les Amish et les Mormons, n'ont jamais eu de mal pour tomber amoureux, se marier, avoir des enfants et connaître une vie de famille épanouie. Pour les Mormons, c'est plus compliqué parce que ce ne sont pas des vrais chrétiens, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc, un monde où les relations garçon-fille sont caractérisées par la pureté, l'honneur, la décence, la pudeur et la modestie, ce n'est pas un monde dénué de sentiments amoureux. Mais c'est un monde, écoutez bien, qui maîtrise le sentiment amoureux plutôt qu'un monde qui le subit. C'est un monde qui maîtrise le sentiment amoureux plutôt qu'un monde qui le subit. Et je crois qu'il y a là un principe extrêmement important pour nous chrétiens. Depuis quelques décennies, peut-être plus, nous parlons beaucoup de tomber amoureux, de sortir avec quelqu'un et d'avoir eu un ou une petite amie. Mais le premier constat qu'on doit faire par rapport à ce discours, c'est que tomber amoureux, sortir avec et petite amie, ce sont des expressions qu'on trouve nulle part dans la Bible. Le sentiment amoureux pourtant existe dans la Bible. Prenez par exemple Jacob, amoureux qu'il est de Rachel dans Genèse 29. Avant d'être marié avec elle, qui doit attendre 7 ans, même 14 ans. Mais au départ, il pensait que ce serait que 7 ans, mais bon, c'est une autre histoire. Mais voilà, à ma connaissance, donc le sentiment amoureux existe dans la Bible, mais à ma connaissance, peut-être que vous voudrez me corriger juste après, dans la Bible, le sentiment amoureux n'est jamais dissocié du mariage. Jacob est amoureux de Rachel, c'est pourquoi il veut l'épouser. Ce qui me fait poser une question. Étant donné ce que j'ai dit concernant la nature des amitiés entre garçons et filles dans le cadre de l'Église, voici ma question. Quel serait le sens pour un chrétien de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un si cette relation n'a pas en vue le mariage? Quel serait le sens pour un chrétien de vivre cela? C'est une question que je pose, ouverte. Hein. Par exemple, un garçon et une fille ont 16 ans, sont tous les deux très engagés dans le groupe de jeunes. Leurs parents sont chrétiens, leur famille est chrétienne. Et à l'issue d'un camp de groupe de jeunes, tout le monde les voit maintenant, bras dessus, bras dessous, ils s'embrassent, bref, ils sortent ensemble, comme on dit. Ils sont encore au lycée, l'un en première, l'autre en terminale. L'un va déménager lorsque son père sera muté dans une autre ville, l'autre comptait de toute façon faire ses études supérieures à l'étranger. Impossible donc de songer sérieusement à un mariage. Mais ils sont amoureux. Alors pourquoi pas vivre cette relation amoureuse, au moins pendant quelques mois? Peut-être un an. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question dans l'autre sens? Pourquoi vivre cette relation amoureuse pendant quelques mois? Ou un an? Pourquoi vivre cette relation amoureuse quand le mariage est inenvisageable à moyen terme? Pourquoi? N'y a-t-il pas d'autres priorités? Pour des jeunes chrétiens. N'y a-t-il pas d'autres priorités pour les célibataires, ceux pour qui le mariage n'est pas pour l'instant une option? Comme par exemple apprendre à mieux connaître Dieu, apprendre à mieux le servir, développer ses dons spirituels, grandir dans son caractère en tant qu'homme ou en tant que femme, servir son église locale. De plus, pourquoi livrer une partie de son cœur à quelqu'un avec qui on ne va pas passer le reste de sa vie, sachant que cette partie de son cœur, on ne pourra pas la récupérer pour la donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? De plus, pourquoi ouvrir la porte à toutes les tentations d'ordre sexuel en entretenant une telle relation amoureuse, alors que les relations sexuelles sont réservées au mariage, donc ne vont pas être, non, en principe, une option sur la table ? Et franchement, il ne faut pas se leurrer, mes amis. Il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui comptaient se préserver sexuellement pour le mariage et qui sont tombés avec un autre chrétien parce qu'ils sortaient ensemble. Alors j'espère que vous comprenez pourquoi ce que je suis en train de suggérer ici, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, on pourra en discuter après, mais à la lumière de tout ce qui a été dit, c'est que les fréquentations amoureuses séparées de la perspective sérieuse du mariage, c'est pas quelque chose qui convient pour des chrétiens. Je vois pas pourquoi. Peut-être que vous voudrez me corriger sur ce point. En tout cas, ce n'est pas à nos sentiments amoureux de nous maîtriser, mais c'est à nous d'amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ, comme dit Paul. Mais imaginons maintenant, pour terminer, que le mariage soit devenu pour vous une possibilité à moyen terme et que vous ayez rencontré quelqu'un qui, a priori, pourrait faire l'affaire. Un candidat, un bon candidat, quoi. Un candidat potentiel. Alors, à quoi va ressembler votre relation à cette personne ? Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps m'est compté. Premièrement, la pureté, l'honneur, la décence, la pudeur et la modestie sont de mise de toute façon. Tant que vous n'êtes pas marié avec, vous n'êtes pas marié avec. Deuxièmement, la priorité n'est pas à l'expression du sentiment amoureux, pour l'instant, mais elle est au discernement de ce qui est juste et sage pour pouvoir prendre une décision qui soit bonne concernant la possibilité d'épouser cette personne. Elle a la priorité. Au discernement, et non pas à l'expression du sentiment amoureux. Et pour cela, vous avez besoin d'un regard extérieur et objectif, je l'ai mentionné déjà un petit peu concernant l'avis des proches, vous avez besoin de quelqu'un ou plusieurs personnes à qui vous aurez donné le droit de vous ramener les pieds sur terre si cette personne estime que vous êtes en train de perdre votre lucidité. Et je vais même jusqu'à dire que vous auriez idéalement besoin de parler à cette personne ou à ces personnes qui ont un regard objectif sur la relation, avant même d'exprimer vos sentiments à la personne qui en fait l'objet. Troisièmement, vous devez avancer avec une grande prudence, sachant, comme je l'ai dit, que les sentiments fluctuent, que les sentiments ne sont pas fiables. La réalité, c'est que vous pouvez tomber amoureux de 1000 personnes différentes. Ça, c'est la réalité. Les sentiments ne sont pas fiables. Vous devez, de façon consciente et délibérée, mettre vos sentiments en veilleuse, dans le but de fonder votre relation avec cette personne sur autre chose que les sentiments que vous éprouvez à son égard. Et pour cela, vous aurez certainement besoin d'un certain nombre de garde-fous, mais qu'il vous appartiendra de discerner pour vous-même, étant en fonction de votre situation. Pendant toute cette période, en tout cas, je suis toujours dans mon troisième point ici, il faut garder une chose à l'esprit, c'est que cette relation peut légitimement prendre fin à tout moment. Vous devez garder cette perspective, cette lucidité sur votre relation. Vous n'êtes pas marié, cette relation peut prendre fin à tout moment. Vous n'êtes pas engagé l'un envers l'autre, en tout cas pas pour le moment. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître en vue de pouvoir prendre une décision informée et sage. Quatrièmement, vous devez être particulièrement prudent quant à l'expression physique de vos sentiments, sachant que le contact physique amoureux, c'est une piste noire à la Clusaz. D'accord ? C'est pas facile de s'arrêter en pleine pente, et d'ailleurs, c'est pas fait pour. De plus, le contact physique et le sentiment amoureux se nourrissent l'un l'autre. Le contact physique et le sentiment amoureux se nourrissent l'un l'autre, ce qui est une formidable recette inventée par Dieu, mais destinée au mariage. Et cinquièmement et dernièrement, une fois que vous avez atteint, Dieu voulant, La conviction commune que vous mariez est une bonne décision. Vous allez alors vous fiancer, comme on dit, c'est-à-dire, d'après la compréhension que j'ai de ce que la Bible dit des fiançailles, en tout cas ce qu'elle présente concernant les fiançailles, c'est-à-dire vous engager à vous marier l'un avec l'autre. C'est la définition la plus simple des fiançailles, hein. On s'engage à se marier l'un avec l'autre. Les fiançailles ne sont donc pas le moment d'apprendre à connaître la personne. Les fiançailles, c'est le moment de préparer le mariage. Et donc, les fiançailles, en principe, ne devraient pas durer plus longtemps que le temps nécessaire à l'organisation du mariage. C'est d'ailleurs ce que préconise Henri Blocher sur ce point, qui a été interrogé, qui a dit que les fiançailles, pour lui, devaient être courtes, 6 mois maximum. Juste le temps d'organiser le mariage. Pour conclure, vous avez peut-être pu trouver mon discours un peu étroit, voire légaliste, et je le regrette si c'est le cas. C'est possible qu'il y ait beaucoup de choses à corriger dans ce que j'ai dit aujourd'hui, hein. Mais tous les sujets qu'on a abordés méritaient sans doute un développement beaucoup plus important que celui que j'ai pu leur consacrer cet après-midi. J'ai donc certainement procédé à des raccourcis, je suis certainement allé très rapidement aux conclusions. Et s'il y a des choses qui vous ont paru bizarres, le temps des questions qui vient maintenant est fait pour en discuter. Mais s'il y a une idée principale que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, plus qu'une idée d'ailleurs, c'est un principe. C'est même un constat. La société évolue vite. On ne peut pas dire de la société humaine qu'il n'y a en elle ni changement ni ombre de variation, comme on peut le dire de Dieu, comme l'apôtre Jacques le dit au sujet de Dieu, Jacques 1, verset 17. Jésus aussi a dit que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé, Matthieu 5, verset 18. Ce qui veut dire qu'en tant que chrétien, notre vie ne doit pas se conformer au monde présent, cette fois c'est Paul que je cite, comme il dit, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Le principe que nous devons donc retenir en matière de célibat, de mariage et de relations garçon-fille, c'est que la culture n'est pas fiable, mais la parole de Dieu l'est. La culture n'est pas fiable, mais la parole de Dieu l'est. Nous ne devons donc pas nous laisser dicter notre éthique ou nos valeurs par la culture majoritaire. Mais nous devons faire l'effort de tout examiner à la lumière des Écritures saintes et des principes qu'elles contiennent. Et c'est comme ça qu'on pourra discerner comment honorer cette belle institution qu'est le mariage, une belle institution aux yeux de Dieu. Et on saura comment l'honorer, même si on n'est pas marié, ou même tant qu'on n'est pas marié.